Je peps ma vie, c'est le podcast de peps. Très souvent dans mes accompagnements, j'ai entendu la phrase suivante. Mais pourquoi ne me l'a pas dit avant ? Alors dans ce podcast, j'ai eu envie de transmettre et de partager au plus grand nombre ces histoires, ces astuces, ces conseils. On va parler de connaissance de soi, d'entrepreneuriat et de différents thèmes en fonction de mon inspiration et des rencontres de la vie. Profite de ce podcast, prends ce que tu as à apprendre, laisse de côté ce qui ne te parle pas et surtout, transmets, partage si tu y vois un plus pour toi ou pour les autres. Je suis Séverine, la fondatrice de Peps et je te souhaite une belle écoute. Et n'oublie pas de mettre du Peps dans ta vie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dont la thématique que j'ai choisie va être le changement. Le changement, c'est maintenant et le meilleur moment pour faire un changement, eh bien, c'est aussi maintenant. Alors, je te propose à travers cet audio d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un changement, c'est pas si simple que ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des freins? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'on procrastine aussi face à des situations qui nécessitent un changement? Et puis, je voudrais aussi t'apporter des clés et des outils en te présentant trois modèles de gestion du changement. Allez, c'est parti! Alors, sur le concept du changement, on se retrouve très souvent face à trois types de situations. La première est une situation d'urgence, la deuxième une situation de projet et la troisième est une situation où on perçoit des signaux faibles. Je vais revenir sur la première, la situation d'urgence, c'est quand on se retrouve au pied du mur en fait. C'est quand on n'a plus trop le choix et qu'il faut prendre une décision immédiatement. Par exemple, je suis locataire dans un appartement depuis 5-6 ans, tout va bien, j'ai pas du tout l'intention de partir, sauf que mon propriétaire m'annonce qu'il vend l'appartement. Alors là, il y a une urgence, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve une nouvelle solution. Ça peut être aussi pour les gens dans le cadre professionnel qui se retrouvent, avec une entreprise qui va déménager. On vous annonce que tout d'un coup, l'entreprise déménage à l'autre bout de la France. Eh bien là aussi, je me retrouve au pied du mur et un changement va devoir s'opérer presque immédiatement. Parfois, on est même dans des histoires de survie. Quand on parle de burn-out, il est plus que grand temps de prendre des décisions et d'amener un changement dans sa vie. La deuxième situation, c'est quand on est en mode projet, quand on sait qu'il nous faut un changement et qu'on décide de passer à l'action. Mais on le fait de manière consciente et préparée. On est dans quelque chose de beaucoup plus doux que ce que je viens de te présenter. C'est par exemple quand je me dis, voilà, je ne suis pas très bien au travail, j'ai un projet professionnel, il faut que je passe par une formation et je vais la faire en parallèle de mon job. Eh bien là, je suis acteur, je suis passé à l'action et je suis dans ma phase de changement. Et la troisième situation, je t'ai parlé de signaux faibles. Là, c'est quand on est sur une projection sur du plus long terme. On est à l'écoute des petits signaux que nous envoient notre corps et notre tête et on comprend que la situation actuelle telle qu'elle est, elle ne pourra pas durer éternellement. Il y a une prise de conscience qu'un changement va devoir s'opérer, mais on ne fait rien. Donc on ressent le besoin de changement, il n'y a pas d'urgence et on ne bouge pas. C'est par exemple quand on est, je vais reprendre l'exemple du travail, voilà, on se dit qu'on en a marre de notre métier, qu'on a fait le tour, qu'on aimerait bien voir autre chose, mais en même temps, nos collègues sont super sympas et puis on est bien payés. Donc on ne bouge pas. Ou alors, j'ai envie de quitter mon boulot parce que franchement, ça ne me plaît plus du tout, mais mon patron m'a quand même proposé une promotion qui devrait arriver et j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner. Donc j'attends. Ça, c'est la situation des signaux faibles. Je sens qu'il faut que je bouge, j'en ai bien conscience, mais je ne fais rien. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, je vais t'expliquer un peu les quatre étapes d'un changement. La première, c'est la situation de départ, la situation initiale, c'est un moment où on est stable, tout va bien. Et puis, arrive un besoin ou une envie ou une nécessité de changement. Cela nous amène donc dans la troisième phase qui s'appelle la phase de transformation. C'est ce fameux passage dans le changement où on vit une instabilité, un inconfort, avant d'arriver à la quatrième étape où on se retrouve de nouveau dans une situation qui se stabilise. Donc, 1, je suis stable, j'ai un besoin de changement, j'active ce changement et je me stabilise de nouveau. Ça veut dire que le changement, c'est quelque chose de dynamique, qui a un début et qui a une fin. Et j'insiste vraiment sur cette notion de fin. Quand on parle de changement, il faut impérativement se poser à un moment pour acter que le processus est terminé. On pourra ensuite repartir sur un nouveau changement. Tu vas me dire, ok, j'ai bien compris le principe, les quatre étapes, mais alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer? Et pourquoi est-ce que le fait d'avoir envie et de décider de changer, eh bien c'est loin d'être suffisant? Eh bien tout simplement parce que nous avons des mécanismes mentaux de résistance face au changement. Il faut bien comprendre qu'il y a une dualité dans notre cerveau. Notre cerveau, il a besoin de changement pour rester en forme et pour s'adapter à un environnement qui évolue en permanence. C'est le principe de l'intelligence. Mais dans le même temps, le cerveau, il n'aime pas, mais alors, pas du tout, changer ses habitudes. Comment est-ce que ça fonctionne? Le cerveau, face à un changement, il va avoir deux réactions. La première, c'est un réflexe de survie. Alors merci aux petits hommes de Cro-Magnon qui, à l'époque, quand ils allaient vers l'inconnu, c'était possiblement synonyme de danger, voire de mort, quand ils partaient à la chasse, par exemple. Notre cerveau a donc été programmé pour nous protéger et nous faire éviter les dangers. Donc on peut déjà lui dire merci. C'est une réaction et un moyen de défense. C'est un mécanisme instinctif et qui va générer immédiatement des émotions négatives comme la peur, par exemple. Ça va activer notre système limbique, c'est le centre des émotions et de la mémoire. Et puis ça va activer notre cerveau reptilien, le cerveau primaire qui est responsable des instincts. Seulement, aujourd'hui, quand on va vers un changement ou vers l'inconnu, on est d'accord que ça ne comporte pas tout à fait le même type de danger qu'à cette époque. Mais notre cerveau, lui, il est resté programmé ainsi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je t'invite à relativiser les premières croyances qui arrivent dans ton cerveau face au changement et la puissance des émotions que tu peux ressentir, parce qu'elles ne correspondent pas forcément à la réalité. Elles sont parfois surestimées, surjouées. La deuxième réaction de ton cerveau, il va passer en économie d'énergie, ce qui est plutôt malin, tu me diras. Le cerveau, lui, représente 3% de notre corps, mais il consomme 20% de notre énergie. Alors pour lui, passer en mode économie d'énergie, c'est un réflexe. Quand il va vers cet élan du changement, c'est une source de consommation excessive d'énergie. Il va donc adopter un réflexe naturel et sain. Lui, il va privilégier tout ce qui est connu, tout ce qui est synonyme de sécurité. Je te rappelle qu'il est là pour nous protéger. Lui, il aime les habitudes, les automatismes, il aime bien rester dans cette fameuse zone de confort. Alors, il va faire très vite des raccourcis qui viennent de nos biais cognitifs. Par exemple, le statu quo, le fait de ne pas bouger. Lui va répéter dans sa tête « on a toujours fait comme ça, ça fonctionne très bien » ou alors « on ne change pas une équipe qui gagne ». Tu vois, tout ce type de phrase, bah ça le cerveau, il aime bien. La deuxième chose à laquelle il est attaché aussi, c'est la conformité sociale. Il aime bien faire comme tout le monde, c'est beaucoup plus sûr, on va suivre le mouvement, on ne va pas sortir des rangs, c'est confortable ça. Et puis, attention à l'aversion à la perte. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. On dit aussi, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc le cerveau, lui, reste prudent. Et c'est pour ça que notre curiosité, notre motivation, notre envie ne sont pas toujours suffisants face à la puissance de nos réflexes instinctifs. Nos automatismes, comme je viens de te les décrire, sont de véritables freins face au changement. Et ça explique aussi pourquoi la plupart de nos résolutions du mois de janvier, par exemple, elles vont tomber à l'eau, parce que la motivation, l'envie et la curiosité ne sont pas suffisants. Et pour aller plus loin, je vais aussi t'expliquer qu'il existe, et tu le sais déjà, deux grands types de changements. Il y a ceux qui nous sont imposés, et puis il y a ceux que l'on choisit. J'aimerais faire juste un petit point pour regarder peut-être avec un nouveau regard ce qui se passe vraiment. Si on prend l'exemple d'une personne qui vient de se faire virer, t'es d'accord avec moi que c'est un changement subi, peut-être qu'elle n'a rien demandé. Et la deuxième situation, ce serait une personne qui, elle aimerait quitter son travail. Elle est donc là dans une décision qui lui appartient et donc dans un changement qu'elle choisit. Le premier, le changement subi, quand on se fait virer, ça limite quand même le retour en arrière. Ça va diminuer mon temps d'instabilité. Je vais être obligée de réagir rapidement. Je suis au pied du mur, de toute façon, j'ai plus trop le choix. Et donc, mon passage à l'action va être rapide. Alors que dans le deuxième cas, quand c'est un changement que je décide, que je choisis, que j'ai envie de mettre en œuvre, je vais peut-être avoir peur de prendre une décision, d'aller jusqu'au bout de mes pensées. Je vais sûrement faire des allers-retours. Si je reprends cet exemple de quitter son travail, il y a des matins où je vais me dire « Ah ouais, c'est bon, j'en ai vraiment marre, c'est bon, je donne ma démission, je trouve une solution, je pars. » Et puis l'après-midi, je vais me dire « Ouais, mais finalement, je suis quand même bien payée, et puis c'est pas très loin de ma maison, il y a quand même un certain confort. » Et je vais faire des allers-retours comme ça. Ce qui fait que mon passage à l'action, il va être parfois long, voire inexistant. Et je vais donc rester dans cette phase d'instabilité très longtemps. Et du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir, toi, quand tu décides de faire un changement, combien de temps tu mets avant de passer à l'action? Est-ce qu'on parle de jours? Est-ce qu'on parle de semaines? Est-ce qu'on parle de mois? Ou est-ce qu'on parle d'années? J'aimerais vraiment que tu puisses partager ça avec moi et du coup, je vais te remettre le lien où tu peux m'écrire directement dans la description. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que le changement subi, il est très souvent perçu comme une contrainte. Mais paradoxalement, eh bien, c'est cette contrainte qui nous oblige à passer à l'action. Et le fait d'être déresponsabilisé de la prise de décision nous pousse à nous responsabiliser dans le passage à l'action. J'espère que tu comprends bien ce que je veux dire. Un autre exemple qui est très parlant, ce sont les crises. Les crises, elles sont systématiquement accélérateurs du changement. Si on reprend le Covid, par exemple, est-ce que tu te rappelles à quelle vitesse on a actionné le télétravail? Ça s'est passé en 2-3 jours, alors que peut-être certaines entreprises essayaient de mettre en avant cette nouvelle manière de fonctionner depuis des mois ou des années. Et à tout ça, on va venir rajouter une chose essentielle qui s'appelle la peur. Très souvent, ce qui nous bloque, ce sont les peurs face au changement. On va avoir peur de la nouveauté, on va avoir peur d'être perdu parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend, on va avoir peur de regretter aussi. Il y a également la peur financière qui va être présente, la peur de ne pas pouvoir revenir en arrière, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, de leurs réflexions, de leurs jugements, la peur de ne pas réussir, de perdre son confort, de ne pas se sentir légitime, l'arrivée du syndrome de l'imposteur, et j'en passe et j'en passe. J'imagine que tu dois te retrouver toi aussi dans l'une ou plusieurs de ces peurs. Et pour information, la peur du changement, la peur phobique du changement, parce que ça existe, ça porte un nom, et ça s'appelle la métathésiophobie. Bon alors, maintenant qu'on a vu que notre cerveau allait tout mettre en œuvre pour nous protéger et assurer notre sécurité, qu'on a vu qu'on n'aimait pas trop se responsabiliser finalement face au changement et qu'on attendait souvent de se retrouver au pied du mur pour passer à l'action, que par-dessus tout ça venaient s'ajouter des peurs nombreuses. J'ai quand même envie de te partager une bonne nouvelle. Parce que même si notre cerveau s'actionne pour notre sécurité, il possède aussi des atouts formidables en termes de capacité d'adaptation et d'évolution. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer physiologiquement de nouvelles connexions neuronales. Et ça prend du temps. Il faut aussi prendre en considération la dimension émotionnelle face au changement. L'émotion, elle précède notre pensée. Et c'est compliqué pour elle parce qu'on va traverser une phase de perte de repères et d'inconfort. Mais ce passage-là, il est nécessaire à tout changement, comme on a pu le voir. Sauf que ça vient toucher de plein fouet la confiance en soi et notre besoin de maîtrise. C'est pour ça que c'est si difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur le cortex préfrontal, qui est un allié de taille face à la lutte interne qui se joue en fait entre le bénéfice et l'effort, et entre la raison et l'émotion. Et on peut aussi apprendre à prendre du recul. Et on va s'appuyer sur la neuroplasticité de notre cerveau pour nous permettre de nous adapter. C'est donc important de respecter le fonctionnement humain, parce que c'est un processus qui prend du temps, et de comprendre le sens et la nécessité de ce changement. Ça, c'est important. Mets du sens sur ton besoin de changement. Et je le répète, le changement, ça s'apprend. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, tu vas me demander comment on fait? Eh bien, je vais te partager trois modèles de gestion du changement. Le changement, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé et ça a été beaucoup étudié depuis plusieurs siècles par des psychologues, des anthropologues, même des businessmen, et plusieurs ont créé leur approche du changement. Le premier modèle que je veux te partager, c'est celui de Kurt Lewin. Alors Kurt Lewin, c'est un psychologue américain qui est d'origine allemande et qui est spécialisé dans la psychologie sociale et le comportementalisme. Et il est acteur majeur de l'école des relations humaines. Selon lui, le mieux à faire pour aborder un changement, c'est de diminuer les forces restrictives. Il nous dit, mettez de l'énergie pour diminuer la résistance que vous avez face au changement, plutôt que de mettre de l'énergie sur ce qu'on appelle les forces propulsives. Parce qu'en fait, quand tu essayes d'augmenter les forces propulsives, ta motivation, ton envie, tout ça, eh bien, la résistance va également augmenter en parallèle. Il nous dit donc de ne pas faire trop d'efforts, de ne pas en faire plus que ça, mais plutôt de limiter notre opposition au changement, à cette résistance. Alors, son concept, lui, il se passe en trois phases. Il va nous parler de décongeler, changer et recongeler. La décongélation, c'est l'étape qui consiste à atténuer les forces qui résistent aux changements et qui veulent maintenir le statu quo. C'est ce que je te disais tout à l'heure, là, cette phase de stabilité, le statu quo, ce qu'aime beaucoup le cerveau. Il va donc falloir mettre du sens sur la nécessité de ce changement et démanteler ton état d'esprit actuel. La deuxième phase, elle s'appelle changer. C'est ici que de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes sont développés. C'est aussi ici que les résultats d'un ou plusieurs petits morceaux de ton projet sont adoptés et qu'on commence à voir les bénéfices obtenus. Et jusqu'à la fin de cette phase de changement, on continue d'être dans le mouvement. Une fois que les choses se sont stabilisées, alors on va recongeler. On arrive donc là dans une nouvelle façon normale de faire les choses. Et je t'invite, si tu le souhaites, à aller voir sur Internet le modèle du changement de Kurt Lewin, puisqu'on y trouve des graphismes qui montrent vraiment bien ce modèle de façon illustrée et visuelle. Le modèle suivant dont je veux te parler est celui de John Paul Kotter. Il est professeur à la Harvard Business School et il est considéré comme une autorité dans tout ce qui concerne le leadership et le changement. Lui, il nous dit qu'il y a 8 étapes pour réussir le changement. Dans la première étape, il va nous inviter à créer un sentiment de nécessité, voire d'urgence. J'adore cette première étape parce que je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est quand on est au pied du mur qu'on agit le plus. Alors, on va créer ce sentiment d'urgence. Dans sa deuxième étape, il nous demande de former une coalition puissante, de s'entourer. Il nous propose de dire aux autres ce qu'on va faire pour gagner en motivation. Et cette idée de groupe et d'appartenance va être moteur aussi dans le changement. Et c'est très vrai que quand on parle à notre entourage de ce qu'on fait, quelque part derrière, on se sent un petit peu obligé de le faire. La troisième étape, il va nous demander d'avoir une vision claire, d'écrire nos objectifs. Ça, c'est un point essentiel. J'accompagne énormément de gens dans les transitions professionnelles. Alors là, on est en plein dans le changement. Et très souvent, les gens n'ont pas une vision claire de ce qu'ils veulent. C'est tout le travail d'ailleurs qu'on fait avec eux. Plus les choses seront claires, plus tu mettras des objectifs, plus tu vas avancer facilement dans le changement. La quatrième étape, il va falloir communiquer, partager ta vision, échanger pour pouvoir effectivement l'éclaircir et l'adapter au fur et à mesure que tu avances. La cinquième étape, il nous demande de lever les obstacles au changement et de diminuer les résistances. Là aussi, comme Kurt Lewin, il nous demande de travailler sur cette partie résistance. Sa sixième étape, très 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 importante, c'est de repérer les résultats à court terme, de noter tous les petits pas que tu accomplis dans ton changement. Moi, je t'invite vraiment à arrêter de regarder le haut de la montagne, le truc inaccessible, le truc hyper difficile où je ne vais pas y arriver. Non. Ce qu'il faut faire, c'est savourer chaque pas sur le chemin. La septième étape, c'est accélérer le changement. Il va falloir créer au fur et à mesure de nouvelles impulsions. Et on va pouvoir les baser sur nos premiers résultats. Par exemple, si tu as comme objectif, je ne sais pas moi, de décrocher 5 clients ce mois-ci, dès que tu décroches un client, alors victoire, tu savoures. C'est pas la peine de dire « oui, génial, j'ai décroché un client, mais bon, il m'en reste quand même 4 ». Ça, ça va plomber ton énergie. Savoure, félicite-toi de chaque petite réussite. Et à la dernière étape, la huitième, eh bien, c'est de nouveau le statu quo. On va avoir atteint nos objectifs et on va ancrer une nouvelle pratique dans une nouvelle énergie. J'en arrive au troisième modèle que je voulais te présenter, qui est celui de Jeff Yat. Ça s'appelle la méthode ADKAR. Jeff Yat, il demande également d'éliminer la résistance au changement. Il y a 5 étapes dans sa méthode qui sont 5 lettres, le A, le D, le K, le A et le R, qui font référence à des mots anglais, mais en français, la première lettre revient à la conscience. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un changement? La deuxième lettre, c'est le désir. C'est qu'est-ce que tu attends comme retour sur investissement? Qu'est-ce que tu espères de ce changement? La troisième, c'est la connaissance. C'est de bien noter les étapes que tu as à franchir et de quoi tu as besoin pour les franchir. De noter tes besoins, ça peut être en matériel, en ressources, en accompagnement, en compétences. La quatrième lettre, c'est ta capacité. Comment est-ce que tu peux noter des objectifs qui soient atteignables pour toi et mesurables dès le début? Tu pourras les ajuster par la suite. Et la dernière, c'est le renforcement. C'est encourager à avoir des pensées positives et de la reconnaissance, de la gratitude pour toi déjà et pour ceux qui t'accompagnent dans ce changement. Et tu vois bien à travers ces 3 méthodes que je t'ai présentées, il y a quand même un point commun qui est de diminuer la résistance au changement, de bien noter des objectifs, d'avoir une vision claire pour pouvoir avancer le plus sereinement possible et surtout le plus efficacement possible. Et moi, je rajouterais un point important qui est la conviction. La conviction, elle est au cœur du système de transformation. Si tu es convaincu de ce que tu veux, du fait que tu vas réussir, alors tu pars déjà avec un potentiel de réussite et un potentiel de gagnant. Le temps passe super vite, j'en arrive déjà à la fin de ce podcast. Je voulais te partager une petite citation qui dit que « rien n'est permanent sauf le changement ». On n'a donc pas le choix que de vivre avec le changement, alors autant qu'il devienne notre ami plutôt que notre ennemi. Et si on veut que les choses changent, ben c'est à nous de changer. Et puis tu veux une autre bonne nouvelle, le changement, je te l'ai dit, ça s'apprend. Et plus tu vis des situations de changement, plus tu t'y habitues et plus tu as envie d'en vivre. Parce que le changement, ça crée aussi de l'adrénaline, on est dans des phases de réussite, de succès derrière. Moi, personnellement, j'adore les changements, je vais même les chercher. Donc, c'est tout à fait possible. Allez, sur ce, je vais te laisser méditer et réfléchir à ce que j'ai pu partager avec toi dans ce podcast. Je te retrouve dans 15 jours, le mardi, pour une nouvelle émission. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée et fais comme moi, mets du peps dans ta vie.